Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et c'est le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Le mystère Delphine Jubilar touche-t-il enfin à sa fin ?
Son mari, Cédric Jubilar, a guidé hier les enquêteurs sur une nouvelle piste. Plus de 5 ans après sa disparition, des ossements retrouvés à Mayoc dans le Tarn restent à les identifier. Le ciel s'est déchaîné hier près de Saint-Étienne. Une tornade et des violents orages ont secoué la ville de Villars. Et Didier Deschamps et ses hommes veulent terminer le mondial la tête haute demain face à l'Angleterre.
Et peut-être enfin le dénouement dans l'affaire Delphine Jubilar.
Plus de 5 ans après sa disparition, son mari Cédric Jubilar, qui a toujours clamé son innocence, est passé aux aveux et a précisé le lieu où se trouvait le corps de sa compagne. Et Maxime Cliaruza, du service police-justice de RMC, Cédric Jubilar a donc orienté dès hier les gendarmes.
Oui, dans un champ situé à Mayoc, une commune qui se trouve à une dizaine de kilomètres du domicile des Jubilar, et c'est peu après 9h que les ossements ont été retrouvés. Deux fémurs enfouis de façon rudimentaire, ainsi que d'autres os du bas du corps, selon nos confrères de BFM TV, sur ce lieu qui n'avait jamais été inspecté par les gendarmes. Désormais, les fouilles pourraient durer encore plusieurs jours, notamment pour retrouver le reste de la dépouille, mais également les vêtements et les effets personnels de Delphine Jubilar, comme son téléphone portable. Les ossements, eux, vont être analysés à l'Institut de Recherche de la Gendarmerie en région parisienne, des analyses qui permettront dans les prochaines heures de savoir s'il s'agit bien, oui ou non, du corps de Delphine, puis dans un second temps de tenter de déterminer les causes exactes de la mort.
Et cette découverte est un véritable choc pour la famille de Delphine Jubilar, notamment son oncle contacté par BFM TV.
Je suis dévasté, complètement retourné. Le soulagement viendra certainement plus tard, mais pour l'instant, je suis vraiment effondré. Mais là, on n'arrête pas de se téléphoner les uns les autres. On est tous bouleversés. Pour l'instant, c'est pas un soulagement. On n'avait aucun doute sur le décès de Delphine. On savait très bien qu'ils avaient tué. Ce qu'il faudra, c'est que quand on aura la confirmation, qu'on puisse faire la sépulture. Et tout le temps, on pense aux enfants et aux petits-enfants. Enfin, les enfants de Delphine et mes neveux et nièces. Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'ils reverront plus leur maman, leur père, c'est un assassin.
6h02 sur RMC, c'est une décision qui a été très attendue par la famille de Mélanie.
Cette surveillante a été poignardée à mort par un adolescent de 15 ans l'année dernière en Haute-Marne devant son établissement scolaire. Il a écopé hier de 18 ans de prison, une peine applaudie dans la salle d'audience du tribunal pour enfants de Chaumont et un soulagement également pour Evan, le beau-fils de Mélanie.
Moi, j'en suis très heureux. C'est une étape de franchie. Je considère qu'ils ont très, très bien compris le problème et la dangerosité du personnage. Je me suis exprimé à la barre et moi, Quentin, j'ai décidé de lui pardonner. Je ne compte pas me bouffer la vie alors que lui a décidé de bouffer la sienne. Et il ne mérite pas la haine ni la rage qu'il a pu susciter. Techniquement, il la mérite. Il a foutu sa vie en l'air, quoi. Moi, ma conviction profonde, c'est de faire changer les choses sur le sujet de l'accompagnement des élèves à l'école. De faire en sorte que Mélanie soit la dernière à mourir sur un coup de tête et qu'on soit la dernière famille brisée.
Deux ouvriers d'une société de travaux ont été mis en examen hier pour le déclenchement involontaire du premier incendie de la forêt de Fontainebleau. Une étincelle d'une disqueuse aurait mis le feu à la végétation près de l'Assis. L'Assis, justement, a pu rouvrir hier soir. Et Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place hier, a lancé un appel aux dons pour sauver la forêt de Fontainebleau.
RMC, il est 6h03. Une météo d'une violence exceptionnelle hier près de Saint-Étienne.
Orage, grêle, rafale de vent. Le nord de Saint-Étienne a été durement frappé. Arbres arrachés, toitures soufflé et une tornade a même parcouru la ville de Villars. Gilles, témoin de la scène.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit avec le vent, ça levait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on ne voit plus qu'un petit morceau. Là, l'arbre s'est carrément couché. Tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
Des rafales de vent avoisinant les 116 km/h ont également été recensées à Mulhouse, dans le Haut-Rhin.
Et puis Damien, qui a vu cette tornade près de Saint-Étienne hier, sera avec nous au 32-16 dans quelques instants.
C'est un texte censé apaiser la colère des agriculteurs, mais qui continue de diviser.
Après plusieurs heures de négociations, députés et sénateurs se sont accordés hier en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi d'urgence agricole. Un compromis, Léonie Guilbeault, qui relance le débat sur les pesticides et la gestion de l'eau.
Réintroduire ces pesticides pour protéger ces cultures contre les pucerons ravageurs, pour Franck Sander, président de la Confédération des planteurs de betteraves, c'est une question de survie.
Il y aura toujours une phase où on aura besoin de produits pour nous protéger, parce que sinon c'est l'ensemble de la récolte qui peut être perdue. Donc un agriculteur aujourd'hui, il ne gagne pas grand-chose. Si en plus de ça, il prend un risque parce que un tel et tel insecte qui viendrait manger sa culture, forcément il arrêtera la filière.
Une question de souveraineté alimentaire, selon lui, et surtout de concurrence déloyale.
Et moi-même qui suis frontalier, à 20 km de chez moi, tous les Allemands utilisent l'ensemble de ces produits-là, donc je vois pas pourquoi moi, on me l'interdirait.
Cette possible réintroduction des pesticides inquiète les ONG, tout comme la question délicate du partage de l'eau et du doublement des capacités de stockage hydrique d'ici 2035. Les associations écologistes dénoncent l'esprit du projet de loi qui passe à côté des vrais enjeux, explique François Veillerette, porte-parole de Génération Future.
Il faut regarder les problèmes du futur. Enfin, ces problèmes du futur, c'est qu'il faut produire de l'alimentation pour tout le monde, mais il faut aussi produire en protégeant la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité aussi de la biodiversité.
Les ONG appellent les députés à ne pas voter le texte lundi.
Et vous avez entendu tout à l'heure au 32-16 le témoignage de David qui est maraîcher et qui était complètement vent debout contre ce texte et la forme finale qu'a pris cette loi agricole. Vous venez vous aussi nous donner votre avis, votre opinion et votre témoignage. Ça se passe au 32-16 et sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Il est 6h06 sur RMC. Didier Deschamps veut finir la Coupe du Monde sur une bonne note.
Alors oui, les Bleus ne seront pas champions du monde. La déception est grande pour les supporters, les joueurs depuis mardi et cette défaite face à l'Espagne en demi-finale. Mais le sélectionneur souhaite remobiliser ses troupes pour la petite finale demain face à l'Angleterre.
On a notre rendez-vous qui nous attend. Notre devoir à tous, c'est de tout faire. C'est le dernier de la compétition. On a ce devoir-là par rapport à chacun, par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière nous, qui sont derrière l'équipe de France, qui ont vibré. C'est pas un match amical.
France-Angleterre, c'est demain à 23h et c'est bien sûr à suivre sur RMC.
Et vous n'êtes pas tous d'accord sur le WhatsApp d'RMC. Pierre nous dit qu'il va la regarder cette petite finale. D'autres nous disent, oh, c'est bon, je laisse tomber. Vous continuez à nous envoyer vos avis au 32-16 et sur le WhatsApp 06 12 424 424.
Et la 12e étape du Tour de France remportée hier par le Belge Tim Merlier. Sa 3e victoire cette année sur la Grande Boucle. Une étape marquée par une violente chute dans le sprint massif à l'arrivée. Place à la 13e étape aujourd'hui entre Dole et Belfort. Longue de 206 km, intégral tour dès 14h sur RMC.
Merci Clément, le prochain journal sur RMC dans le morning, c'est à 6h30.